عاقبة أيها المؤمنون أيتها المؤمنات يغتنم خمسا قبل خمس يغتنم خمسا قبل خمس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عن ذكره فقد هوى أيها المسلمون تمضي السنوات والأعوام والليالي والأيام وتجري الشمس لمستقر لها ثم ينقضي الزمان والليل يطلب النهار سريعا لمضي الكون قال تعالى يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والحياة لا تدوم على حال نعم موهوبة وآلاء مسلوبة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام خمس نعم أيامها هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والإكثار من الذات منها ما هو زائل لا محالة ومنها ما يخشى زواله من فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أقدارها ولا ينفعه التمني بعد التفريط فيها قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم أولا اغتنم شبابك قبل هرمك فأيام الشباب قليلة وقد يقطعها الأجل قبل ثمانها وما أكثر من يموت في شبيبته قال ابن الجوزي رحمه الله أكثر من يموت الشباب لذا قل أن ترى الأشياء والشباب زمن التحصيل لأمور الدنيا والدين وزمنه من أنفس الأوقات والمحاسبة عليه تجري على الفراش لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها وعن شبابه فيما أبلاه رواه الترمذي ومن حفظ شبابه بالطاعة ومغالبة الهوى وعده الله بظل تحت العرش سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة الله متفق عليه الشباب مرحلة من المراحل العمرية الكبيرة المتسعة يقول العلماء الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله أيها الشباب أنتم أمل الأمة وأنتم مستقبل الأمة والأمة تعول عليكم وتنتظر منكم المزيد والمزيد فوظف هذه المرحلة العمرية في خير تنفع به نفسك ومجتمعك وأمتك وتنتفع أنت به في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأقول إن ابتعد شبابنا عن دين الله غرقوا في بحور الشهوات وإن انحرفوا عن الفهم الصحيح لدين الله سقطوا في شباك الشبهات أيها الشاب اعلم أن حياتك كلها عبادة، إذا رتبت أمور دنياك فسيكون دينك ناجحا. لا تنس قول عائشة بنت الصديق رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. تخلق بالقرآن مع الله، وتخلق بالقرآن مع آبائك، وتخلق بالقرآن مع أهلك، وتخلق بالقرآن مع جارك، وتخلق بالقرآن في دراستك وفي عملك، تخلق بالقرآن مع جميع الناس. جوارحك نعم، فاشكر الله، فاشكر الله على نعمة شبابك. ثانيا، اغتنم صحتك قبل سقمك. الصحة والعافية متعة الدنيا لا لذة للحياة إذا زالت، وأيام سرورها مجهولة لا يعلم متى انقضائها. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية، رواه أبو داود. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته أن تدعو ربها أن تنالها فقال: واسألوا الله العافية. متفق عليه. وهي مما يسأل عنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، يعني من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرمك من الماء البارد، رواه الترمذي. وتدوم العافية بشكرها، باستعمالها في الطاعة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالمذكر والمشرب الحلال، وبكثرة الاستغفار وملازمة التوبة. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في كبره وضعف قوته. والذنوب مهلكة للصحة. قال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ومن عمل في صحته ثم مرض أجري له ثواب ما كان يعمله وهو صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. ومن أهمل العمل في صحته ثم مرض لم يجر عليه سوى الحسرة والندم. فاعمل في عافيتك لله، وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال علي رضي الله عنه: لا تنس صحتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. كان أحد السلف إذا خرج من الخلاء يقول: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. وكان الصديق رضي الله عنه يقول: لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. فنعمة الصحة نعمة كبيرة، نعمة عظيمة. ولذلك صدق من قال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه ولا يعرف قدره إلا المرضى. ثالثا، يغتنم غناك قبل فقرك، والمال يتقلب بأيدي العباد لا يبقى على حال، ومن لم يتحول عنه المال تحول هو عن المال بالرحيل. قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. والمال فتنة هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي. والغني المنفق يسبق غيره بالأجور، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. متفق عليه. والموفق من الأغنياء من بنى آخرته بالسخاء والعطاء مع التقوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تغشى الفقر وتأمل الغناء. متفق عليه. والنادم من كنز مالا وتوالى عن الإنفاق، قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ونكمل الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، le sujet d'aujourd'hui porte sur un célèbre hadith, une célèbre parole prophétique où le prophète صلى الله عليه وسلم nous donne des conseils, 5 conseils. Et ces 5 conseils ont plus de valeur que toute cette terre et ce qu'elle contient. On a entendu plusieurs sermons sur le bon conseil. Et qui était de bon conseil? Le premier, c'est le meilleur, la meilleure personne sur terre qui était de bon conseil, c'était le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith, dans cette parole prophétique, il nous conseille 5 choses. Il nous conseille de profiter de la jeunesse avant la vieillesse. Il nous conseille de profiter de la santé avant la maladie. Il nous conseille de profiter de la richesse avant la pauvreté. Il nous conseille également de profiter de son temps libre avant ses occupations. Et enfin, il nous conseille de profiter de notre vie avant la mort, avant notre mort. Et on a parlé aujourd'hui des 3 premiers conseils. Les 2 suivants, je les terminerai lors du sermon prochain, Inch'Allah, au mois prochain. On a parlé du fait de profiter de sa jeunesse avant sa vie. Tout le monde est d'accord, croyant ou non, qu'on ne peut rester éternellement jeune. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a aucune divergence. Ce n'est pas une question de croyance, c'est juste une question naturelle et de bon sens. On peut rester éternellement jeune. C'est-à-dire que ta jeunesse, elle a une valeur inestimable. Combien aujourd'hui sont plus âgés et donneraient tout pour être encore jeunes, pour redevenir jeunes? Ils ne pourront jamais. C'est tout simplement impossible. Et donc, comme ta jeunesse, a la valeur inestimable, il faut savoir que tu seras questionné sur ta jeunesse. Le jour du jugement, tu rendras des comptes sur cette partie de ta vie. Pourquoi cette partie de ta vie? C'est une partie où, en règle générale, tu as la force, tu as le temps aussi. Et c'est là où tu construis ta vie. On ne construit pas sa vie quand on a un certain âge ou une soixantaine d'années. Aujourd'hui, vous interrogez des anciens, ils vont tous vous dire, ça y est, nous, on a construit notre vie quand on était jeune. On a fait ce qu'il fallait, on a eu nos familles, on a élevé nos enfants. Mais ça ne tend pas d'avoir 60 ou 70 ans pour construire sa vie. Tu le fais durant ta jeunesse. Et donc, comme ces jours-là sont importants, il faut tout faire pour ne pas perdre son temps et pour ne pas perdre ce capital jeunesse. J'étais il y a quelques jours sur Internet et par curiosité, en préparant aussi le sermon, forcément, j'ai été voir combien, en général, en moyenne, une personne qui a jusqu'à 35 ans passait d'heures sur Internet. J'ai été voir, j'ai été regarder, j'ai eu cette curiosité. Sachez que, selon les statistiques, les gens passent de cette tranche d'âge-là, deux heures par jour sur Internet. Il y en a une fois de plus, c'est une moyenne. Ils passent deux heures par jour sur Internet. Pas forcément pour s'instruire. Sur Internet, il y a les réseaux sociaux et il y a d'autres choses. Pas forcément pour s'instruire. Deux heures de leur temps sur leur petite journée de 24 heures. Il y en a, ils sont à l'école, il y en a, ils sont au travail, mais ils passent deux heures quand même de leur temps sur Internet. Si ces deux heures sont passées pour s'instruire ou pour apprendre le calcul, mais si ces deux heures sont passées pour perdre son temps, il est en train de perdre son capital jeunesse. Parce qu'il ne sera plus une nouvelle fois jeune, en fait. Et il faut savoir que tu seras questionné sur ta jeunesse, sur ce que tu en as fait. Et si on est questionné sur ça, c'est vraiment c'est très très important. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les jeunes. Parce qu'il voyait en eux l'avenir et l'espoir. Quand il a eu la révélation, il avait que 40 ans. Mais ceux qui ont porté l'islam avec lui, ce n'étaient pas des personnes âgées. C'était des jeunes. Omar ibn Khattab, il n'avait même pas 30 ans. Abu Bakr, il n'avait même pas encore 38 ans. Othman n'avait même pas encore 35 ans. C'est eux qui ont porté Ali. Il était encore plus jeune. C'est eux qui ont porté l'islam. La jeunesse porte l'islam. Si maintenant, nous, on doit porter l'islam et continuer à porter le message, mais qu'on passe notre temps sur des futilités, on va avoir du mal à porter le message aussi bien que nos prédécesseurs. Et j'ai dit également que la jeunesse était une étape parmi les plus importantes. Les savants, ils ont dit une phrase qui est très forte et j'espère que la majorité d'entre vous vont la retenir. Ils ont imagé la vie avec le jour et la jeunesse avec le soleil. Et ils ont dit le soleil ne remplit pas et ne brille pas la journée, en fin de journée. Il ne brille pas le soir le soleil. Mais il brille plutôt au milieu de journée, voire en début de journée. Donc là, ils ont imagé. Donc là, ici, le jour, ça correspond à la vie, et le soleil correspond à la jeunesse. Et j'ai donné un conseil aux jeunes. Je me suis adressé directement à la jeunesse. Et j'ai donné ce conseil-là pour que les jeunes prennent conscience qu'ils sont l'espoir et l'avenir de la communauté. On n'est pas des individualistes, on est une communauté. Donc les jeunes représentent l'espoir. Aujourd'hui, les anciens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, alhamdoulilah. Vous voyez bien le résultat, mais ils attendent une relève. Ils attendent des jeunes qui travaillent aussi bien, ils ont fait ça pour les jeunes. Donc ils ont un espoir en la jeunesse. Donc, la communauté attend beaucoup de sa jeunesse. Et ce que j'ai dit également, j'ai dit que si les jeunes s'éloignent de la religion. Si S'ils s'éloignent de la religion, forcément, ils seront tentés d'approcher les mauvaises choses, les tentations. Car on est encerclé aujourd'hui de tentations, quel que soit le pays où l'on vit, on est encerclé de tentations. Donc il faut absolument revenir vers la religion d'Allah. Et j'ai dit aux jeunes que ta vie entière est une adoration. Il y en a beaucoup qui pensent que il faut rester à la mosquée jour et nuit pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faux. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala où est-ce que tu es? Au travail, à l'école, dehors, au marché, supermarché, peu importe. Où est-ce que tu te trouves? Tu es en adoration. Et j'ai rappelé la parole prophétique. La parole où la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionnée par quelques compagnons sur le comportement du prophète. Ils l'ont questionné, ils m'ont dit comment il était, comment était-il. Et elle a dit son comportement, c'était le problème. J'ai donc conseillé à tout le monde, jeune, moins jeune, plus âgé, de se servir du Coran pour se comporter et avoir un comportement convenable et correct envers son Créateur, mais aussi envers ses parents, envers sa famille, envers son voisinage, son voisin, envers ses enseignants à l'école. Pas parce qu'on est à l'école qu'on apprend des mathématiques, de l'histoire, géographie, qu'on ne doit pas respecter l'enseignant, on le respecte. Au travail, envers les salariés avec qui tu travailles, tout ce que tu vas faire va refléter l'islam. Tu es tout simplement l'ambassadeur de l'islam dans chaque coin où tu te trouves, chez toi, dehors, au supermarché, à l'école, au travail, peu importe. En voyage, partout où tu te trouves, tu es l'ambassadeur de l'islam. Et il faut bien se comporter et se servir de Coran pour bien se comporter avec tous les gens. J'ai dit également, et j'ai fini sur la jeunesse, en disant que chaque fait des gestes de l'être humain est un bienfait, qu'il soit musulman ou pas. Aujourd'hui, la vue est un bienfait, mais il n'y a pas que les musulmans qui voient. La langue est un bienfait pour parler, mais il n'y a pas que les musulmans qui parlent. Donc chaque fait des gestes, ça correspond à un bienfait d'Allah. Mais nous, le petit plus qu'on a, et ce que j'ai conseillé, c'était de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la jeunesse. Second point que j'ai analysé, c'est concernant le fait de profiter de sa santé avant la maladie. De sa santé avant la maladie. Aujourd'hui, la santé, c'est devenu une chose banale et normale pour tout le monde, quasiment. Tant qu'on n'a pas goûté aux souffrances de la maladie, on est incapable, sincèrement, de ressentir ce qu'un malade ressent. Même des fois, quand tu visites certaines personnes, ils te disent non, tu ne peux pas comprendre. Tu comprendras quand tu seras vraiment à ma place et que là, tu pourras compatir et dire oui, je sais ce que tu ressens. Ah, mais tu ne sais pas ce que tu ressens. Parce que toi, tu es en bonne santé. Et aujourd'hui, marcher, on est venu comme du mal à mosquée, on est nombreux. Marcher, le fait de marcher, c'est devenu une chose normale et banale. Le fait de vous parler aujourd'hui, le parler, la langue est devenue normale. C'est de l'ordre en bonne santé, on se tient bien, tout est devenu normal. Mais sache que tu es aussi questionné sur ce bienfait le jour du jugement. Si tu es questionné sur ce bienfait, c'est forcément que ce bienfait a une valeur. Pourquoi on va te questionner sur quelque chose qui n'a pas une aussi grande valeur? Donc tu seras questionné sur ça. On te dira, ne t'ai-je pas donné un corps qui se porte bien et de l'eau sèche? Donc en arabe, j'ai dit, Adam Moussel, halakajismak, ou alors métaminazda, jibel. Donc on questionnera sur ce bienfait. Et il faut savoir que si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ta santé, il faut savoir le remercier. Et vous avez entendu encore une fois nombreux sermons ici. Sur la chose. Il faut savoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la santé. Mais il faut savoir aussi utiliser cette santé à bon escient. C'est pas que je suis en bonne santé, j'ai juste remercié. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma santé? Si on va être questionné, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Alors, c'est bien quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher grand-chose.
Et là, il n'arrive plus à bouger, il est resté à la maison, cloué au lit. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Quelqu'un qui a la bonne santé, qui est en bonne santé, lui sera questionné et rendra des comptes. Et il faut savoir également que les péchés détruisent la santé. Les péchés détruisent la santé. Je vais vous donner juste un petit exemple. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui a fait quelque chose, donc il sait que c'est haram, il sait que c'est un péché, il le sait naturellement, il le sait. Il regarde à droite, à gauche, il est anxieux. Et ça, ça joue sur sa santé. Indirectement, ça jouera forcément sur sa santé. Est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on m'a pas vu est-ce que je vais me faire prendre, est-ce que je vais pas me faire prendre. Rares sont ceux qui vont faire quelque chose qui est interdit et qui le font de manière très étendue et naturelle. Enfin, il faut savoir aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a fait une annonce. C'est là où vous allez encore plus prendre goût à votre belle religion, l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne, un serviteur, tombe malade, ou qu'il voyage, eh bien, tous les actes surrégatoires qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé, ou lorsqu'il était résident, ben lui sont aussi. Ça veut dire que si j'ai l'habitude d'aller à la mosquée, mais du jour au lendemain, je ne peux plus m'y rendre par ma maladie, sache que tu viens de même, la même récompense que les gens qui sont à la mosquée. Parce que tu avais l'habitude de faire ça. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le garantit. Par contre, celui qui, lorsqu'il était en bonne santé, ne faisait pas les choses, ne venait pas à la mosquée, ne faisait pas les choses bien, et lorsqu'il est tombé malade, il a eu ce regret en disant « Ah, si seulement j'avais la bonne santé, je sais aller à... » Alors les gens ils vont vous dire « Oui, mais c'est son intention qui compte. » Non, celui-là, il n'aura que les regrets. Parce que même s'il avait la... quand il avait la bonne santé, il ne faisait pas ces choses-là. Il ne faisait pas ces choses-là. J'ai rappelé juste une parole d'un vieux prédécesseur. J'ai donné deux exemples. L'exemple d'un vieux prédécesseur qui, à chaque fois qu'il sortait des toilettes, se rappelait une chose. Il disait, mais quel bienfait que tout le monde oublie. Tout le monde oublie de remercier. Tout le monde oublie de remercier le fait d'aller aux toilettes. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller aux toilettes de leur actuel. Et on en connaît tous. C'est pas un sujet. On en connaît tous. Mais juste parce que la chose est devenue banale, on l'a banalisée, ben finalement, on s'est dit qu'on était peut-être maître de la chose et qu'on n'a pas besoin de remercier. Et j'ai donné aussi une parole de Abou Bakr Sotir qui dit qu'il préfère être en bonne santé et dans l'aisance et remercier qu'être dans l'épreuve et patienter. Quand on est dans l'épreuve, forcément, on pense toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours quand on est dans une épreuve, le premier mot qui nous vient à la bouche, Alhamdulillah, c'est un bienfait aussi, c'est oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Mais quand on est en bonne santé et dans l'aisance, on a tendance à oublier. Donc, on voit que je soutiens, je dis, je préfère être dans l'aisance et remercier Allah qu'être en épreuve et patiente, dans l'épreuve et patiente. Et j'ai fini également par une phrase en disant que la santé était semblable à une couronne. En fait, les gens qui sont malades, quand ils vous voient en bonne santé, ils voient une grosse couronne au-dessus de vos têtes. Ils voient une grosse couronne. Cette couronne-là, elle est visible que par celui qui connaît la valeur de la santé. Donc les malades français, qui aimeraient bien être à sa place. Mais quelle chance il a. Aujourd'hui, des gens sont prêts à donner des milliards pour retrouver la vue. Mais malheureusement, ils ne pourront pas. Troisième point, j'ai fini par le troisième conseil, celui de profiter de la richesse avant la pauvreté. Et là, je vais faire un bref résumé, car on est pris un peu par le temps. J'ai dit et j'ai ramené quelques paroles prophétiques qui nous indiquent que les meilleurs d'entre nous, certes, sont ceux qui ont les moyens, mais qui font l'aumône, qui ont les moyens et qui font l'aumône. Même les Sahaba ont questionné le prophète en disant, en gros, ils avaient le regret. Ils lui ont dit, mais les gens qui sont riches et qui ont les moyens, Ils jeûnaient comme nous, ils priaient comme nous, ils faisaient leur pèlerinage comme nous. Mais en plus de ça, ils nous ont dépassés parce qu'ils donnaient. Mais eux, ils avaient les moyens, ils donnaient. Donc forcément, quand tu es doté d'une certaine richesse, et chacun a son échelle, bien sûr, bien entendu, chacun a son échelle et à son niveau, il faut donner, il ne faut pas oublier de donner. Parce que celui qui t'a doté de cette richesse, c'est ni plus ni moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه